Annie. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Mathilde Wagman rencontre Jean-François Stévenin. Ce soir, un maelstrom jubilatoire.
Bonsoir Jean-François Stévenin.
Bonsoir Mathilde.
Entre la sortie du premier film que vous avez réalisé, Passe-Montagne en 78, et celle de votre deuxième, Double Messieurs en 86, 8 années s'étaient écoulées. Après Double Messieurs, votre deuxième film, tous ceux qui aimaient votre cinéma ont dû attendre 16 années pour voir éclore Mishka, votre troisième et à ce jour dernier film. Film solaire, familial, enlevé, joyeux et triste à la fois, un peu comme les belles chansons. Ce soir, je voudrais qu'on parle, pour conclure la semaine que nous avons passée ensemble, de ce film-là, de cette aventure-là. Quel a été d'abord le point de départ de l'écriture, l'envie de raconter cette histoire ?
Ben, au départ, c'est mal parti, parce que moi, c'est une époque où j'allais pas trop bien dans ma vie, mais je tournais beaucoup, beaucoup, et j'étais, voilà, ça arrive. Et j'avais commencé à écrire, mais tout était méchant. Tout était violent, méchant, caricature. Et d'un seul coup, et j'ai retrouvé le scénario, d'ailleurs, c'était vachement bien, hein, c'est celui-là que j'aurais dû tourner. Mais, d'un seul coup, plus envie. Et puis après, je m'y suis remis. Et là, c'est l'effet inverse qui est produit. C'est-à-dire, et comme si les personnages étaient revenus me chercher. Et là, j'ai eu envie de faire un film, justement, solaire, et qui aime la nature, qui aime les gens. Au début, c'était la caricature, tous ces ploucs qui vont en vacances, les congés payés, la laideur que c'est, etc., etc. Non, j'ai tout ça balancé. Et hop, j'ai voulu faire un film complètement solaire. Le départ du film a été Bertrand Blier, qui m'avait convoqué, qui m'a dit « Toi, tu devrais faire des films, j'ai une idée pour toi. » Alors là, Bertrand, j'allais chez lui, et lui, c'est extraordinaire, parce qu'il est en train de fumer la pipe, il va pisser, il revient, il me dit « Oh, dis donc, alors voilà, tu vois, il y a une scène dans le train, il y a deux bonnes sœurs qui sont un peu gouines. » Alors, lui, et il me dit « Il y a une idée, voilà, que je te donne, c'est un vieux bonhomme, qu'on laisse tomber au bord de l'autoroute, et qu'on, comme un chien que les gens attachent pour les vacances, et puis eux continuent leur route. » Ça, c'était l'idée forte. Il se passe 4 mois, je vois Bertrand, je lui dis « Écoute-moi, j'ai rien pu écrire du tout, parce que tout ce que tu me racontes, c'est du blé à l'état pur, c'est buffet froid. Donc je veux bien que tu écrives, et puis moi je tourne le film à ta place. Mais autrement, c'est pas mon truc. » Il me dit « Dans ce cas-là, tu fais comme moi. Tu te prends un hôtel qui coûte cher, et t'as pas beaucoup de ronds. Tu prends 500 pages de papier à machine, écrire, et plus tôt tu sors de l'hôtel, plus vite tu seras libéré. » J'ai essayé tout ce qu'il m'a dit, rien ne marchait jamais, quoi. Donc ça a duré un temps infini pour écrire ce film.
Mais l'écriture, c'est quelque chose qui dure toujours. Sur les 3 films, vous avez parlé de ce moment-là comme d'un moment difficile. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à votre avis ?
Oui, parce que moi, c'est des questions d'ambiance. Bertrand Blier, lui, c'est le gros Depardieu va jouer ça, Jean Carmet va dire ça, Carole Bouquet va faire ça. Ok, c'est parti. Et la caméra, intérieur nuit, voiture. Moi, le dialogue n'amène rien. Il amène des choses, mais en surplus. Complètement. C'est-à-dire que mes films, je suis sûr, pourraient être projetés en Chine sans sous-titres. La caméra et les mouvements d'acteurs et leur jeu doivent raconter, en dehors du texte. Le texte, c'est un plus. Au départ, ça fait 800 pages. Et puis après, il faut qu'il y ait 100 pages à écrire pour que quelqu'un qui lise attentivement ait l'impression d'avoir vu le film. Alors, je me rappelle, j'ai retrouvé des trucs. Il y a une page et demie pour décrire d'une ambiance de station-service sur l'autoroute en pleine bourre, en plein été. Eh ben, faut se réduire à une ligne et demie. C'est une douleur totale.
Le film est une sorte de road trip estival, hein, on l'a dit, sur la route des vacances, entre plusieurs personnages, tous assez cabossés à leur façon.
Cabossés, oui, bien.
Qui sont tous plus ou moins à la recherche d'une famille, ils vont constituer le temps d'un été, au fond, une famille qu'ils se choisissent. Il y a une réplique que prononce votre personnage dans le film, le personnage que vous incarnez, et qui est peut-être celle qui résume le mieux le projet dans son ensemble. À un moment, il regarde ses compagnons de route et il dit « Moi, j'ai toujours rêvé d'une famille comme on est là. » Au fond, c'est ça le sujet du film, c'est la famille qu'on se choisit.
C'est ça, et en plus, c'est un film, là, je tenais absolument à faire ça, parce qu'à l'époque, j'étais très alcoolique. C'est un film sur l'alcoolisme. Personnage que je joue, Gégène, est un type fracassé par l'alcool. Son copain Bonheur, pareil d'ailleurs, il dit, on a fait la cure ensemble, mais maintenant ça va mieux, moi j'ai repris le vélo. Et c'est un film aussi là-dessus, quoi, où je veux montrer que tous les petits gens qu'il y a, tous les gens, ça va de Bonheur qui lui vit une fois de plus avec sa vieille mère dans un coin perdu près d'Auxerre, le personnage que je fais qui est un pauvre gars qui a un factotum dans une maison de retraite et qui est ravagé par l'alcool aussi. Le vieux Jean-Paul Roussillon qui lui fait ce personnage de Michquet extraordinaire. Lui est largué comme un chien par sa famille. En réalité, c'est lui qui s'en va. C'est pas la famille qui le jette, c'est lui qui se barre. Donc il y a une espèce de quiproquo comme ça. Et puis tous les personnages sont fracassés, quoi. Celle qui joue Jane, ma fille, Salomé, qui joue là un de ses plus beaux rôles, parce qu'elle avait tourné plein de fois, mais là, c'est fabuleux ce qu'elle fait. Et elle veut retrouver son père. Elle vit en Angleterre, elle ne sait pas, les parents n'ont pas divorcé. Elle a envie de retrouver son père. Elle prend son petit frère, que le père ne connaît pas, sur son dos. Et là, elle l'a largué à travers la France, sans un rond, à se balader avec les flics qui la cherchent partout, parce qu'elle a disparu. Et qu'il est mineur. Tous les personnages ont des pètes de travers comme ça partout.
Au cœur du groupe que composent les personnages du film, il y a Michka, qui interprète Jean-Paul Roussillon, qui est bouleversant dans le film, qui passe en un éclair d'un regard de tristesse à une joie enfantine. Jean-Paul Roussillon était un très grand acteur, un très grand metteur en scène aussi, une figure de la comédie française. Est-ce que vous avez écrit le rôle en pensant à lui ? À quel moment est-ce qu'il est arrivé dans l'aventure ?
J'ai pas du tout écrit en pensant à lui, mais là, je fais un petit jump en arrière. C'est qu'à l'époque de Passe-Montagne, j'avais dit à Villeray, il faudrait que tu me trouves un gars qui soit pas trop connu dans le cinéma et qui puisse jouer le rôle. Il m'avait dit, il y en a qu'un, c'est Roussillon. Bon, la vie a passé. Il y avait mon ami Pierre Zucca, avec lequel on a tourné à la Nuit américaine et tout, et qui a fait Vincent Milan dans un pré, des films maintenant qui sont un peu cultes, qui a disparu il y a longtemps. Il avait fait un film, et j'avais vu Roussillon là-dedans. J'étais, 15 ans après, je m'étais dit, je comprends ce qu'avait dit Véret, effectivement, il est formidable. Et la vie a passé, re 15 ans, et quand le film était prêt à être, à trouver le casting, je me suis dit, Roussillon, il faut que je le voie. Donc j'ai eu rendez-vous avec Jean-Paul et je ne le connaissais pas. Donc on a rendez-vous avec un gars pour qu'il fasse le rôle principal, on ne le connaît pas. Ça fait très jobard quand même. Rendez-vous au canon des gobelins, je ne sais plus où, Nation. Et là j'étais arrivé, je me cachais un peu, puis Roussillon m'a regardé. Je lui ai dit, écoutez Jean-Paul, j'ai l'air de chercher, je ne vous connais pas. Il me dit... Et moi non plus. Des gens de ma famille m'ont raconté que vous faisiez des très beaux films. Je ne les ai hélas pas vus. Tout était dit. Et après, il a pris ce qu'il appelle la brochure. Il est parti avec. On n'a plus jamais parlé de rien. Et il a fait ce film où il est absolument... tout s'est emballé comme ça.
Pour interpréter plusieurs des personnages du film, vous avez choisi des membres de votre famille réelle dans la vie. Claire, qui interprète la femme de Yves Afonso dans le film. Votre fille, Salomé, incarne Jane. Il y a aussi... son petit frère, qui est joué par son petit frère dans la vie, votre fils Pierre. Ouais. Et puis on voit aussi, comme ça, dans un petit rôle de figuration, Robinson.
Ouais.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu embarquer votre vraie famille dans cette histoire d'une
famille
reconstruite ?
Alors ça, c'était la suite de mon amour pour John Cazavetes, qui m'a appris ça dès le début, sans le faire exprès. Dans ce jour, on met toute la famille, quoi. John, il a mis toute la famille à chaque fois. Il a vendu la maison, ce que j'ai pas fait, mais j'ai pris des dettes énormes que j'ai toujours pas fini de payer.
Il a vendu la maison pour Love Streams.
Chaque fois, il la mettait au clou et après, il la remboursait. Il mettait Gina Roland, les gosses qui jouaient des rôles hyper compliqués, et ses copains, Gazzara et tout ça, mais il mettait la famille. Voilà, parce que d'un seul coup, on dit, ils en ont tellement bavé à me supporter pendant toutes ces années et tout ça, allons-y tous ensemble, mais joyeusement. C'est pas le terme d'ailleurs, parce que joyeusement, c'est un tel enfer de tourner un film, mais ça peut être extraordinaire aussi. Mais c'est une expérience éprouvante, parce que ça dure que 10 semaines, hélas. Après, il y a le montage qui dure 1 an, dans mon cas. Après, il y a le mixage. Là, le film renaît à nouveau et s'envole. On essaye de le faire envoler, et c'est une période absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Là, ce film n'avait pas été monté par Yann Dutheil, il était monté avec Emmanuel Castro, et je le dis, ben, c'est important, on était passé au numérique. Donc il n'y avait plus de pellicule 35 et de l'étape de montage qui vont avec. Moi, au début, elle m'a fait donner des cours pour que j'essaye de comprendre ces machines à vide et tout ça. Et moi, je me suis dit, j'arrête, parce que si je vais jouer avec les machines. C'est les machines qui vont monter le film, parce que moi, je vais jouer avec, pour essayer de faire chevaucher des sons, tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, je ne m'en suis pas occupé. C'est elle qui a monté entièrement le film. Il n'y a pas un plan dont je suis responsable du montage, contrairement aux autres films où Yann Dedé dit que c'est moi qui ai tout monté. Là, c'est Emmanuel Castro, magnifique, qui a absolument monté tout le film. Moi, j'étais à côté. Je regardais, elle me disait, viens voir ça. Je regardais, hop, on parlait, voilà.
Il se trouve que vos quatre enfants, puisqu'on parlait de votre famille, Jean-François Stévenin, Sagamore, Robinson, Salomé et Pierre, ont tous à un moment joué, ils sont devenus acteurs. À votre avis, c'est vous qui leur avez transmis la passion du cinéma, du jeu, ou est-ce que c'est passé sans que vous le vouliez?
Oui, c'est d'hérédité, c'est la façon de vivre. On a été baigné dans l'ambiance de cirque. Le cinéma, c'est un grand cirque. On a besoin de l'odeur de la sueur des éléphants, sortir les dromadaires, aller nourrir les lions. C'est ça, un tournage, c'est ça. C'est inexplicable. Pas inexplicable, on peut dire ça au grand public. C'est-à-dire que si le cinéma se faisait tout seul dans une chambre avec 3-4 collaborateurs, etc., ça aurait aucun intérêt pour moi. Le truc, c'est cette grande transhumance, d'un seul coup, partir. On est le chef skipper d'un vaisseau qui part, qui va traverser non pas l'Atlantique, mais des orages complètement terrifiants. Mais tout ça, c'est dérisoire en même temps. Ça fait quoi, au fond? Ça fait un film de plus. Il en sort 50 par jour. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un film de plus? Mais quand c'est sa vie, qu'on est dedans complètement, que c'est ses enfants, c'est plus, c'est les vrais. Ah ben non, c'est les enfants de cinéma. Oui, mais hop, c'est des films. Tout ça est embarqué dans un maelstrom jubilatoire.
Yann Dedet, dont on a parlé plusieurs fois au cours de cette semaine, qui a monté vos deux premiers films, qui est un ami très proche et qui a écrit récemment un livre dans lequel il raconte l'histoire du tournage de l'aventure de Passe-Montagne, votre premier film, dit que sur chaque tournage, il y a un moment où vous avez besoin de vous mettre en danger. Très souvent, il y a un moment où le tournage s'arrête et on est au bord du gouffre. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une mise en danger?
Parce que je suis en danger. Le film est en danger par l'épuisement. Moi, j'en peux plus. Là, sur ce film, on dormait 3 heures par jour. Moi, je dormais 3 heures par jour. Donc, à un moment, le film va s'arrêter. Par exemple, Double Monsieur a vraiment failli s'arrêter, quoi, parce que moi, j'en pouvais plus. Il y avait un producteur qui était un producteur débutant, mais pas courageux. Mais je ne peux pas lui reprocher. C'est lui qui a mis le tampon en disant « on va faire le film ». Donc, c'est grâce à lui que j'ai fait le film, bien sûr. Mais là, pas courageux au sens timoré. Et Jean Labbadie, qui a écrit un truc sur les derniers nababs, je ne sais plus exactement, qui a fait tourner un documentaire sur les gens qu'on produit après-guerre ou avant-guerre et après-guerre, des films extraordinairement culottés, où les mecs comme Georges Beauregard, des mecs comme Daumont, Atoll Daumont, qui produit un film japonais, qui c'est qui va s'intéresser à un film japonais? L'autre, il met tout au rencard. Tout bradé, tout prêt à disparaître. Des mecs qui voulaient que les films existent. Alors après, maintenant, c'est plus pareil, il faut la télévision qui est le principal fournisseur, c'est-à-dire, c'est pas FR3, c'est Arte, c'est très compliqué, si le film n'a pas ça, a juste l'avance sur recette, on peut carrément pas faire le film. Enfin, voilà.
Dans Michkin, on retrouve Jean-Paul Bonheur, un acteur qui était déjà dans votre film précédent. Là, il incarne Muller, un personnage étrange, qui est une sorte de clochard céleste. Au début du film, il raconte que Johnny vient le voir régulièrement pour le remercier de l'avoir aidé lors d'un accident par le passé. Au moment où il raconte cette histoire, on pense en tant que spectateur qu'il a fabule, qu'il invente le truc. Et puis, quelques 20 minutes plus tard dans le film, il y a une séquence magnifique au cours de laquelle son personnage joue avec le petit garçon du film. Et soudain, Johnny, on entend le bruit d'un hélicoptère, ouais. Et Johnny arrive comme un ange dans son hélicoptère, ouais. Et on se rend compte que ce personnage, Muller, disait vrai. C'est magnifique parce que ça rend justice à ce personnage, et puis parce que la rencontre entre ces deux hommes-là, Johnny et lui, est très belle. Je crois que vous êtes amis avec Johnny dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter la place qu'il occupe dans votre vie?
Johnny, d'abord, j'ai été fan de la première heure. Et puis après, j'ai rencontré, mais longtemps après. Et puis après, on s'est branché parce qu'on a tourné des films ensemble, comme La Gamine, comme...
Vous étiez dans les films de Laetitia Masson,
oui.
dans Love Me.
Où il était assez extraordinaire, de présence, parce qu'il adore le cinéma. C'est-à-dire que même en concert, les nuits se terminent, lui, il voit deux films. Même en concert. T'as, je couche à 9h du matin, enfin, c'est Johnny, comme on dit. On arrive devant le mystère, plus on s'approche du volcan qui est Hallyday, moins on comprend ce qui se passe. Plus on est proche, on sent que ça chauffe, ça brûle. Mais pourquoi, comment, toujours, dans le cercle un peu intime, puis même les fans, ils disent, bah, ça c'est Johnny, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Alors là, il y avait ce truc-là. Je lui avais passé le scénario, pas de réponse, rien du tout. Et 4 jours avant le tournage, parce qu'il est menteur complètement, j'avais porté à l'Olympia les trucs, etc. Oh, t'es mignon, il paraît que je tourne dans ton film, moi j'ai même pas le scénario. J'ai dit, bon, bah écoute, ça fait rien. Mais... Et comment je m'habille? Rappelle 10 minutes après. Et je peux être là tel jour. Alors là, on avait dit avec mon assistant formidable, assistant de Rochamps, Paolo Trotta, italien, assistant de Marco Ferreri, assistant de Rochamps, une pointure totale, qui m'a soutenu, l'autre irresponsable de la moitié des 3/4 du film, avec Pierre Haïm, le chef opérateur. C'est des gens, c'est plus des collaborateurs, c'est des gens, sans eux, le film s'arrête immédiatement. L'autre m'avait dit, écoute, il faut que Johnny soit le 23 août. Donc, moi, j'avais dit, si Johnny arrive, on est là à Auxerre, on tourne la séquence avec Johnny, c'est tout. Non, c'est le 23 août à cause de d'autres impératifs de tournage qui font partie des trucs. C'est un 23 août 2000 et l'autre, je l'ai la veille. Et là, j'avais pas de plan de vol, pas d'assurance. L'autre, il est à l'Olympia la veille, il y est le soir même. Il m'a dit, et comment je viens là-bas? Alors là, il y avait Michel Sudry, qui est le mec qui l'a toujours transporté, qui vient avec l'hélico. Et pour vous dire comment que c'était des costauds et que les producteurs, des fois, c'est pas facile, j'ai appris après qu'on n'avait même pas payé le kérosène. L'autre, il n'y a pas de plan de vol, il n'y a rien. Moi, je dormais naturellement pas. Et on arrive, et le mec fait à vue. On avait dessiné un truc, j'avais dit, c'est un peu à droite, tout il est à l'approche. À 11h, il est à Marne-la-Coquette. Mais à midi... Il y a l'hélico qui vibre dans un champ. Mais alors là, et moi, toute la vie, comme il y a la base aérienne de Dijon, pas loin, avec des mirages qui passent, je me dis, ça manquerait plus que ça. Alors l'avion, l'hélico se fait couper en deux, là, je vais être frais, quoi. Et l'autre arrive. Et ça donne cette séquence absolument essentielle et formidable, où vraiment, un petit gars sur la frange, qui est Jean-Paul Bonner, qui vit avec sa vieille maman et qui fabrique des escargots de Bourgogne et qui lit des romans policiers et qui voilà, rencontre l'icône absolue française qui est là, qui a connu De Gaulle, tout le monde.
Au cours des émissions précédentes, Jean-François Stévenin, on a parlé de l'importance pour vous de cinéastes comme Cassavetes, on a parlé de John Boorman, mais il y a un réalisateur dont on n'a pas du tout parlé dans votre imaginaire américain, c'est Monty Hellman. C'est l'occasion d'en parler, puisqu'il y a un film de Monty Hellman qui a été particulièrement important pour vous, je crois, c'est Macadam à deux voix, qui a un road movie assez incroyable. L'histoire de deux fanatiques qui traversent l'Amérique d'ouest en est. Mishka, c'est aussi un road movie à sa façon, même si d'une manière différente. Pourquoi est-ce que les films de Monty Hellman et ce film-là a-t-il particulièrement compté pour vous?
Ah ben Monty Hellman est pour moi responsable de tout. Parce que quand j'ai vu L'Ouragan de la Vengeance, où il y avait pour la première fois Jack Nicholson, qui était pas du tout, qui était avocat, qui était, je sais plus quoi, mais enfin, qui était même pas acteur. Bon, alors j'ai vu Western, L'Ouragan de la Vengeance, avec des silences, avec le bruit de l'Amérique, le bruit des déserts. Moi, j'ai été complètement transporté. Et alors là, Macadam à deux voix, c'est le top. Et après, on s'est rencontrés, parce que quelqu'un avait eu la mauvaise idée de me présenter à lui au Festival de Cannes. en disant, tiens, voilà Stevenin, c'est le, il a fait Passe-Montagne, c'est le Monty Hellman français. J'avais une honte terrible, j'ai disparu. Puis après, je l'ai retrouvé en Amérique. Donc j'étais chez lui, on est devenu une espèce d'amitié très muette parce qu'il ne parle pas. Il y avait une projection où il est venu, j'étais avec Bruno Nuiten.
Projection de Passe-Montagne.
Oui. On sort, il y a une actrice qui arrive vers lui, salut, comment ça va, tout ça en anglais. Qui me dit, qu'est-ce que t'avais dit ? I saw a movie tonight. J'ai vu un film ce soir. Et il dit, ça tient en quatre lettres. Puis il dit, it's about time. C'est sur le temps qui passe.
Et vous êtes d'accord avec son résumé de Passe-Montagne, It's About Time, c'est votre, tout votre cinéma d'une certaine façon.
Oui aussi.
C'est sur le temps.
Ouais. Sur le temps, et ça rejoint Borman sur le mystère de cette planète, des rencontres, des gens, des parenthèses.
Autre influence très forte pour vous, dont on n'a pas encore parlé au cours de la semaine, Jean-François Stevenin, c'est Céline. C'est un écrivain que vous chérissez beaucoup. Et d'ailleurs, dans vos films, on retrouve quelque chose de l'univers de Céline, quelque chose qui a à voir avec une espèce de réalisme fantastique, une attention portée aux petits détails qui prennent soudain une importance
très juste,
énorme. Sans parler, bien sûr, de l'attention que vous portez vous-même à la langue française et aux langues étrangères qui sont très présentes dans tous vos films. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans l'univers de Céline ?
Tout au début, moi, quand j'étais en Allemagne, on en a parlé l'autre jour, il y avait un bouquin qui sort en allemand qui était Nord. Je lis ça, je me dis, oula. Et après, je le trouve en français quand je suis rentré du tournage. Et là, j'ai été complètement stupéfait, quoi. Nord, qui est le dernier livre de la trilogie allemande, après D'un château l'autre. Là, je suis tombé dedans, mais comme Jimi Hendrix. Céline m'enchantait de trouvailles, de... On a l'impression d'avoir vu le film, d'où le trompe-l'œil, que c'est. D'ailleurs, j'ai connu, parce que j'ai beaucoup vécu après avec sa femme, Lucette Almanzor, qui a aujourd'hui 105 ans, et qui est toujours vivante à Meudon, mais qui est très, très fatiguée, et qui a connu Céline toute jeune, qui a passé 25 ans avec lui. Et donc, on a passé deux ou trois, une dizaine d'années ensemble à faire des voyages, on se baladait partout avec les chiens, etc. Dans un univers de Céline complètement. Après, je suis tombé vraiment amoureux de cette dame. Enfin, plus que ça, elle connaît tous mes enfants, elle m'a porté complètement. Et à chaque fois, elle me disait, oh, lisez-moi un petit passage dans Château l'autre. Alors, moi, je disais, on allumait un feu, je lui disais, elle me disait, oh, le cochon, il n'a pas parlé de ça. Oh, c'est dommage. Et puis, vut! Et la voilà partie dans les souvenirs qu'elle avait, etc. Et elle était d'accord avec moi sur le fait que Nord, c'était la stylisation maximum. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on vit le film. On peut pas lire ça comme un livre. On entend les bombardements, le machin. On rigole tout le long, alors que c'est hyper tragique. C'est quand même, Céline a tenu finalement, par curiosité malsaine qu'il avait, à être au trou du cul du monde. Parce que je dis à Lucette, quand même, partir à prendre le dernier train pour rejoindre tous les collabos à Baden-Baden, c'était vraiment, quand on a écrit Les Beaux Draps et les livres antisémites qui l'ont poursuivi toute sa vie, qui continuent d'ailleurs de faire polémique. Et polémique pourquoi ? Parce que tous les livres antisémites qui ont été écrits sont passés à la poubelle, mais lui, il y avait le talent qui fait qu'on lit ces livres qui font vomir, mais au bout de 20 pages... Hop, d'un seul coup, il y a une envolée absolument formidable, qui est une cacophonie de littérature qui n'a jamais existé. Voilà, moi, je suis resté là-dedans.
C'est intéressant que vous parliez de Nord comme d'un film, parce que je crois que vous avez eu le projet pendant longtemps d'adapter ce livre au cinéma.
Ah oui, ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et plein ont essayé. Audiard, tout le monde a essayé. Personne n'a... Abel Gance. Et là, Lucette m'a raconté, m'a dit qu'il venait. Le dernier, c'est Louis Malle. Ils sont tous là, mais non, personne n'aura le... Mais forcément, c'est intournable.
Mais vous, vous avez été jusqu'où dans le projet d'adapter
J'avais trouvé un truc assez vicieux, mais qui me plaisait bien, qui était que je racontais ma vie avec Lucette. Et d'un seul coup, interférait des passages que je voyais de Nord, de Rigaudon, d'un château l'autre. Comme ça, ça me permettait de slalomer où il y avait des vraies séquences écrites ou que j'inventais carrément. Oh, j'étais content, j'inventais des trucs que Céline n'avait pas écrit, mais que Lucette m'avait raconté. J'ai dit, tiens, je vais mettre ça. Ah, c'était un beau projet, ça.
Et pourquoi est-ce qu'il n'a jamais vu le jour, ce projet ? Ou peut-être est-ce que c'est encore un projet pour vous ?
Non, Non, parce que je me suis aperçu à la fin de ce projet que ça serait trop épuisant à tourner. Et moi, je peux plus me permettre de dormir 3 heures par jour et de porter un machin pendant 4 ans. Donc, acteur, ça, je veux bien. Mais non, pour ça, il faudrait que je tourne pas de la même façon que je tourne moi. C'est-à-dire de, comme on a parlé au début de ces émissions, comme François Truffaut, qui lui, à 18h, c'était fini, il pensait à la séquence du lendemain. On tournait un petit plan qui avait l'air facile. Après, au montage, il mettait un petit coup de violon, un commentaire, une voix off, et c'était la petite musique de Truffaut. C'était hyper peinard à tourner. Lui, était pas, mais c'était sa façon. Moi, je peux pas comme ça, donc voilà. Mais c'est pas triste. Je suis content parce que le truc existe. Je vais peut-être en faire un livre.
On arrive au terme de ces entretiens, Jean-François Stévenin. J'ai envie de vous poser une question qui est peut-être une connotation un peu mélancolique, mais tant pis, je la pose quand même. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui quand vous regardez votre parcours d'acteur et de metteur en scène ?
Ah, des regrets, non, mais des envies. J'en parlais l'autre jour au Festival Louis Lumière à Lyon avec mon copain Vincent Lindon, qui lui fait tous les rôles que j'aurais aimé faire. Mais c'est une question d'âge, je veux dire. Alors lui, ça te fait marrer parce que je lui ai dit, oh, j'aurais pu faire ça. Oh, j'aurais
c'est
pu
quoi
faire
les
ça.
Rôles que vous auriez aimé
tout,
faire.
Tout ce qu'il fait, chaque fois que je vois un film, même une bande-annonce avec Vincent, je me dis, oh, ça aurait été bien. Ou de tourner avec un tel et un tel, mais ça, c'est les circonvolutions du cinéma. Hein.
Mais pour parler, pas du passé, mais de l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des envies particulières, des choses qui vous font rêver du côté de rôle à interpréter?
De tourner avec un costaud ou une costaud qui m'entraîne. Ah oui, là je vais tourner par exemple avec Jeanne Herry, qui a écrit un truc qui s'appelle Les Champs de Fleurs, très très beau film. Moi j'ai que 2 jours de tournage, elle tient absolument à ce que je sois là, mais moi je suis absolument ravi de faire ça aussi.
Merci beaucoup Jean-François Stévenin d'avoir passé la semaine avec nous.
Merci Mathilde.
Cette rencontre de Mathilde Wagman avec Jean-François Stévenin. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsigny. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.